Nous sommes trois professionnels virtuels et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance.
Bonjour les collègues!
Bonjour Jen!
Bonjour Jen!
Bienvenue à notre épisode de Toute la classe et on continue à travailler à la maison. On a entendu l'annonce hier qu'on va continuer à faire l'enseignement à distance jusqu'à la fin du mois de juin au moins. Et après ça, on va voir. Alors, on va continuer à parler de l'enseignement à distance et aujourd'hui, on parle de ce qu'on peut proposer aux élèves comme apprentissage à la maison. Ils vont faire leur temps en live avec nous, les 30 minutes à l'élémentaire. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on leur propose à la maison? Et je sais que c'est un des sujets préférés de Mylène. Parce qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle pendant notre réalité en salle de classe, les devoirs, et l'apprentissage à la maison. Est-ce que vous pourriez clarifier pour moi, mesdames?
Bien, dans le plan de continuité d'apprentissage qui a été mis en place suite à l'annonce de la fermeture des écoles, ça a été noté qu'il y avait 30 minutes, comme tu dis, de synchrone avec les élèves par jour pour l'élémentaire, puis qu'après, il y avait 30 minutes de asynchrone pour les élèves par jour. Ce qui veut dire que dans une semaine, à tous les jours, tu avais 2 fois 30 minutes, avec le prof, sans le prof. Mais là, quand dans le document, ça disait live et ça disait apprentissage à la maison. Alors, c'était une combinaison des deux. Et parce que ça s'appelle apprentissage à la maison, il y a beaucoup de gens qui se sont tout de suite tombés dans le « c'est des devoirs ». Parce que c'est à la maison, c'est des devoirs. Parce qu'en temps normal, quand on est en présentiel avec les élèves en salle de classe, ce qu'on envoie à la maison, c'est des devoirs. Mais dans ce cas-ci, c'est différent.
C'est quoi la différence, Vicky?
Comme on avait parlé un petit peu juste avant l'enregistrement, des devoirs, c'est ce qu'on appelle un petit peu la consolidation des acquis. Alors, évidemment, on va avoir notre 30 minutes de en direct avec nos élèves. Et après ça, on va leur donner des travaux, des activités qui vont faire la consolidation des acquis. Ce qui est très différent d'un apprentissage à la maison. Parce que lorsque tu parles d'un apprentissage, comme le nom le dit, tu apprends et ce sont des tâches, des activités qu'on pourrait évaluer, évidemment, avec toujours notre base de l'évaluation qui est la co-construction des critères d'évaluation, puis des critères de réussite et des résultats d'apprentissage.
Alors là, si je comprends bien, les devoirs, c'est juste la consolidation, puis l'apprentissage à la maison, il peut y avoir du nouveau.
Ah, mais qu'est-ce que tu entends, Jen, par nouveau?
Mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on a enseigné. Bien, c'est quelque chose qu'on vient juste d'enseigner aux élèves. Alors, c'est peut-être la première fois qu'ils pratiquent. J'enseigne un concept ou j'enseigne une stratégie. On en parle ensemble, on crée les critères, puis l'élève va aller le mettre en pratique, peut-être pour la première fois.
Ah! Puis moi, mon évaluation?
Oui, ce sera pour voir si l'élève l'a bien mis en pratique. Tu as un apprentissage à la maison, tu as le droit d'évaluer puisque c'est un apprentissage à la maison et pas un devoir. Alors, ton évaluation, c'est pour voir si l'élève a bien mis en application le nouveau concept.
Alors, je sais que dans les dernières semaines, nous avons vu de beaux exemples des activités d'apprentissage à la maison. Et je vais commencer avec un exemple que j'ai vu au secondaire. Et puis, je pense que vous avez des exemples à partager avec nous aussi. Hier, sur Twitter, un de nos collègues franco-ontariens, Mathieu Leroux, avait partagé un super beau projet qu'il avait proposé à ses élèves de 9e année d'art visuel. Alors, c'était un tableau de choix où les élèves avaient 4 activités artistiques qu'ils pouvaient faire. Et ce qui était vraiment génial avec ça, c'est qu'il y avait un élément de de citoyenneté globale là-dedans, parce que tout ce qu'ils faisaient était à l'extérieur. Alors, c'était des affaires non seulement où les élèves quittaient leur écran pendant quelques heures pour faire ce travail-là, ou la majorité du travail, mais quelque chose que les gens qui passent dans la rue pourraient voir. Alors, les quatre choix étaient une affiche Canva, mais une affiche en lien avec le coronavirus, puis comment l'éviter ou bien comment vivre ce moment de confinement. Une mandala faite d'objets naturels qui serait, tu sais, sur le gazon ou quoi que ce soit. Des roches peinturées, mais pas juste avec paix, amour ou quoi que ce soit écrit là-dessus. Il fallait que ça serve à quelque chose. Et la quatrième qui était un genre de mosaïque avec de la craie sur le trottoir ou sur le pavé, avec un message, encore une fois. Et puis tout ça était en lien avec la mise en application des éléments et des principes de l'art visuel qu'ils avaient vu dans le cours. Alors, il avait créé un ThingLink avec un exemple, puis notre directrice avait bien parlé du fait que ça prend un genre de copie-type. Alors, mm-hmm. Il avait des exemples, mais sur le ThingLink, il avait aussi un lien aux consignes. Alors, les élèves voyaient exactement ce qu'il fallait faire, comment remettre l'épreuve, et puis c'était en lien avec quels éléments, disons, pour l'affiche, c'était en lien avec les éléments du graphisme qui avaient été enseignés en salle de classe. Alors, j'ai trouvé que, tu sais, aller dehors, la citoyenneté globale, parce qu'il y avait tout le public qui allait le voir, et puis le lien avec les éléments enseignés dans le cours, c'était très intéressant. Et l'idée du choix.
Oui, souvent, il y a des enseignants en art ou en éducation physique qui viennent nous voir puis qui disent « qu'est-ce que je fais? » Et justement, ça, c'est un bel exemple pour, premièrement, les sortir de chez eux, qu'on a tous besoin. On a tous besoin de prendre l'air frais, puis que ça va vraiment contribuer à quelque chose. Et en même temps, on va mettre les acquis qui ont été enseignés en application dans un projet.
Alors, un projet qui n'est pas googlable. Ici, je ne pouvais pas juste prendre, je devais le faire, puis je devais réfléchir en lien avec ce qui avait été enseigné.
Oui, beaucoup de beaux éléments dans cela. Et l'idée de quitter ton écran pendant quelques heures aussi, j'ai trouvé ça génial parce que d'habitude, et même dans nos formations, tu sais, on a montré aux enseignants plein d'outils technologiques, mais il faut penser aussi, comme parfois pour la santé mentale et le bien-être et la créativité, il faudrait qu'on quitte nos écrans.
Absolument.
Mylène, tu nous avais parlé d'un projet au préscolaire.
Oui, j'ai reçu un message sur Facebook de mon filleul qui est dans une classe de Viamonde. Et c'était en fait, May et Valérie, l'éducatrice et l'enseignante, avaient demandé aux élèves en synchrone de travailler sur le diagramme à pictogramme. Alors là, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour poser nos questions. Et là, leur apprentissage à la maison, chaque élève devait se formuler une question et la rendre accessible sur une plateforme ou une autre. Alors, certains enfants ont appelé les grands-mamans, les grands-papas via FaceTime. D'autres élèves l'ont publié sur leur Facebook. Moi, j'ai reçu un lien Messenger de mon filleul qui me disait « Quel est ton animal préféré? » Alors, c'est sûr que j'ai passé quelques minutes pour lui dire à quel point il me manquait, ta-ta-ta et tout. Et je lui ai présenté…
Oui. Oh. Ton animal préféré, c'est…
C'est Ben et Maya.
Et les chiens.
Alors, voilà. Et puis, ce que lui a fait, parce que j'ai parlé avec sa maman après, ce que lui a fait, c'est qu'il est allé compiler toutes les informations qu'il avait reçues à gauche et à droite pour aller le représenter dans un tableau à pictogramme. Et là, il s'est rendu compte que parce qu'il avait laissé sa question ouverte, il y avait eu comme 25 possibilités d'animal.
Oh non!
Ce qui fait que son tableau était très long. Alors, quand c'était le temps de discuter de son tableau avec sa classe, il est allé choisir les éléments qui avaient plus une plus grande information. Alors, le chat, le chien, le da-da-da, parce que tout le monde voulait être un peu exotique en donnant
la chauve-souris.
Mais lui, ça lui a porté réflexion. Alors, s'il y a des uns partout, c'est pas un tableau qui me donne de l'information. Alors, il est allé choisir les éléments où il y avait plus de gens. Et là, il pouvait porter un meilleur jugement sur quel était globalement l'animal préféré autour de sa communauté à lui.
Oui, puis en écoutant cet exemple-là, puis en faisant des liens au curriculum, moi j'en vois tellement de liens. En traitement donné, ce qu'on demande aux élèves de faire, c'est d'être capable de choisir une échelle qui est appropriée, d'être capable d'avoir un tableau de sondage qu'on pourrait utiliser. Alors tout ça, c'est de l'apprentissage. Et en même temps, cet enseignant a rendu cette tâche tellement intéressante. Alors, sans le savoir, sans que ce soit une leçon en tant que telle, l'élève a appris tellement d'attentes dans le curriculum, mais en faisant dans un contexte tellement ludique et tellement intéressant.
Oui, absolument. Aussi que pourquoi souvent on a trois choix, puis le quatrième choix, c'est autre. Vicky, tu avais un exemple à partager avec nous aussi.
C'est une de nos amies, Jenna Martins de la région de Windsor, qui a mis des photos sur son Facebook d'une expérience qu'elle a fait avec ses élèves. Alors, chacun des élèves, eux, ils peuvent prendre un bol ou un mason jar, désolé, et après ça, mettre de l'eau à l'intérieur, il y a dans deux pots différents ou même dans le même pot, mettre différents matériaux. Alors, donc, du papier, du plastique, peut-être des feuilles ou quoi que ce soit. Et après ça, ils vont continuer l'observation à chaque jour. Et après ça, après une semaine, ils vont discuter de ce qu'ils ont appris avec l'expérience qu'ils ont fait. Puis en pensant à ça, ça c'est une classe de première année, puis déjà là, si on retourne dans le curriculum, on parle beaucoup des matériaux. Alors, tu sais, on est en train de travailler les matériaux. Évidemment, on parle, c'est toujours un sujet qui est en vogue, tu sais, l'environnement, l'utilisation des matériaux, la décomposition, est-ce que ça va être nuisible à l'environnement ou non, ça c'est toujours en vogue. Et je trouvais que ça venait travailler vraiment le processus d'enquête en l'intégrant avec une activité extrêmement intéressante, puis surtout avec du matériel que tout le monde en trouve à la maison.
Oui, ça aussi, c'est important qu'on pense aux enfants et aux parents, qu'on ne veut pas les stresser. On a toujours... c'est une blague parce que c'est la réalité que dans les temps normaux, les enfants nous annoncent toujours la veille que soit je dois faire une affiche demain, puis j'ai besoin de carton, puis les parents doivent courir au Dollarama pour acheter un Bristol Board, ou bien il y a une vente de pâtisserie demain et tu dois faire des petits gâteaux.
175 petits gâteaux.
Oui, c'est ça. Pour toutes les grosses. Puis on ne veut pas faire ce genre d'affaires maintenant, surtout qu'on ne peut pas aller chercher ces affaires-là rapidement parce qu'il y a plein de magasins qui sont fermés, il y a des restrictions. Alors, on veut s'assurer de demander aux parents et aux familles de faire des affaires qui sont faciles.
À la limite, on pourrait leur demander de faire un volcan parce que tout le monde a du bicarbonate de soude et comme tout le monde a du vinaigre, mais pas plus que ça, s'il vous plaît.
Mais sais-tu quoi? Quand mes garçons étaient jeunes, j'en avais jamais parce qu'eux, ils voulaient faire exploser des sacs Ziploc tout le temps. Alors, à chaque fois, et c'est pas souvent que je veux faire cuire quelque chose, faire des pâtisseries, mais à chaque fois que je suis allée chercher la bicarbonate... Non, est-ce que c'est bicarbonate de soude ou la poudre à pâte? Anyway, il n'y en avait jamais et pas de vinaigre non plus. Ça, c'est la vie avec des petits. OK. Alors, une chose que j'ai remarqué que toutes ces activités avaient en commun, c'était que ça nécessitait de la pensée critique. Alors, j'aimerais vous demander, on a un invité exceptionnel il y a quelques années qui est venu nous parler, puis je pense que tout le monde connaît son nom. C'était Ginny Garfield Newman. De TC2, Critical Thinking Consortium. Yeah. C'est ça. Et puis, lui, il nous avait parlé de 6 façons de transformer n'importe quelle tâche pour que ça demande la pensée critique. Puis, je pense que c'est intéressant parce que lui, c'est toujours basé sur des critères. Alors, si les élèves travaillaient l'annonce publicitaire qui revient à plusieurs niveaux, je pense que c'est en quatrième, c'est en septième, il me semble, c'est dans le cours d'anglais. Mais si on veut juger ou même créer des annonces publicitaires, il faut qu'on ait des critères de qu'est-ce que c'est? Alors, il faut qu'on, une bonne annonce. Alors, il faut qu'on regarde des exemples, puis il faut qu'on décide comme classe qu'est-ce qui fait une bonne annonce publicitaire. Et une fois qu'on a des critères, ça nous permet de leur demander de faire plusieurs tâches. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler un peu du document avec moi que j'avais partagé avec vous, qui était en anglais. Alors, on va faire de notre mieux d'en parler en français. Mais qu'est-ce qui serait une façon de transformer une tâche pour que ça demande de la pensée critique?
Bien, je pense qu'est-ce que Elliot a fait avec son tableau, son diagramme à pictogramme, je pense qu'est-ce qu'il a été capable de faire, c'est qu'il a été capable de critiquer ce qu'il avait devant lui. Alors, l'aspect de critiquer le morceau ou porter un jugement critique sur quelque chose, il s'est rendu compte que son tableau, tous les 1-1-1-1 qu'il y avait, c'était pas ça où il y avait le sens. Alors, il a été capable, en critiquant le morceau, d'aller chercher les éléments essentiels et de porter un jugement critique sur ce qu'il avait fait.
Et de retravailler son tableau, peut-être.
Exact. Et si je le retravaille, à ce moment-là, je retravaille le morceau, qui est aussi une autre forme de pensée critique. Alors, critiquer la pièce et retravailler la pièce.
Oui. Et un autre exemple de retravail, désolée Vicky, une autre façon de retravailler la pièce, c'est des affaires qu'on voit comme raconter l'histoire de Roméo et Juliette dans un temps moderne. Ou si c'était le contraire et que Juliette était l'homme et Roméo était la fille ou...
J'y avais jamais pensé à ça.
Oui, si tu le mets à une autre époque, ou si tu changes le sexe, ou si tu prends la fin tragique et tu sais, tu le rends tu crées une fin heureuse. Ça, c'est retravailler le morceau.
Ça, c'est super intéressant.
Lorsqu'on lit les contes de fées où c'est le loup qui est le gentil et les cochons qui sont les méchants, c'est la même chose.
Ouais,
alors, ça, c'est vraiment le fun pour les élèves aussi parce qu'il y a de la place pour beaucoup de créativité. Vicky, je t'avais coupé avant. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais dire?
Tu l'as dit, mon exemple. Oui, c'est beau.
Celui que j'avais beaucoup aimé de Garfield, c'est décoder le casse-tête. Mm-hmm. Alors, il nous avait donné l'exemple de une activité qu'il avait vécue avec des élèves, je pense, de deuxième année, parce que le cycle de l'eau, c'est deuxième année. Et il avait demandé aux élèves, selon toi, l'eau que tu bois, est-ce que c'est la même eau que les dinosaures buvait. Alors, c'est toute une réflexion parce qu'on se dit, ben non, parce que les dinosaures, ça fait des lunes qui sont plus sur la planète. Mais la vérité, c'est qu'à cause du cycle de l'eau, eh ben oui, c'est la même eau qu'on boit. Alors, pour que les enfants arrivent à cette conclusion-là, il faut qu'ils maîtrisent ce cycle de l'eau-là pour pouvoir en tirer leur propre conclusion. Puis ça, je trouve ça intéressant. Même, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant.
Absolument. Si je peux me permettre, comme si de continuer dans la liste, de faire la conception selon des spécifications détaillées. Alors, là, je peux penser rapidement. Ça peut être un projet qui est dans un cours de technologie. Alors, avec une machine qui fonctionne mal, avec un bâtiment qui a fondré ou aussi n'importe quoi. Mais comment est-ce que ces élèves-là pourront retravailler ça avec les spécifications qui ont été données?
Mais tu sais quoi, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est la pensée design en lien avec les objectifs de développement durable que nos élèves en 2030 vont être capables de faire X, Y, Z. On doit les préparer, on doit les faire raisonner, on doit les mettre dans ce milieu de vrai monde-là. Le design to spec, le concevoir en lien avec les spécificités, me font beaucoup penser à ça. Parce que tu te souviens, vous vous souvenez, ce qu'on avait fait avec le réseau Steam, il y a de ça que je me souviens plus quand, quelques années.
Ça fait trop longtemps que tu le fais, là.
Non, ça fait trop longtemps qu'on est à la maison. Je suis plus capable d'avoir une perception de temps. On avait demandé aux élèves de réfléchir en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la programmation pour pouvoir réfléchir en lien avec des critères de réussite. Et ça me fait, écoute, dans ma tête, là, la ligne entre les deux n'est pas pointillée, là. Elle est en gros marqueur fluo.
Ouais. Lorsque Mylène, elle avait parlé de les développements durables, on connaît l'année passée des groupes d'enfants qui présentaient leur projet, qui est toujours venant d'un problème qu'ils ont observé dans leur ville. Alors là, il y avait comme par exemple un groupe d'élèves qui ont dit qu'il n'y avait pas assez de littérature LGBTQ dans leur bibliothèque municipale. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont regardé différentes options. Ils ont dit qu'est-ce qui est le meilleur. Alors, puis ça, c'est un exemple que je vais voir, que je regarde la liste. C'est vraiment de juger entre différentes options, de porter un regard critique, que ce soit selon le coût, que ce soit selon la faisabilité. Eux autres, ils peuvent justement choisir l'option qui est la meilleure.
Oui, et... En parlant de ça, du développement durable et de problèmes dans leur municipalité, moi, j'avais pris en note que, parce qu'on veut que les élèves soient motivés, on veut qu'ils soient engagés, on veut entendre la voix de l'élève, puis on veut les mettre actifs, nos élèves, dans leur activité d'apprentissage à la maison. Puis j'avais fait une petite note pour moi-même ce matin qui disait « citoyenneté globale ». Parce que en ce moment, il y a tellement d'affaires qui se passent dans le monde que si on propose aux élèves de faire quelque chose qui va améliorer la vie, non seulement sur la planète Terre, ça doit pas être à grande échelle, ça pourrait être qu'est-ce que je peux faire pour les gens dans mon quartier ou dans ma ville pour les rendre heureux ou à meilleure santé ou quelque chose du genre. Alors, j'ai pensé aux gens dans mon quartier. Ben, je sais que dans tous les quartiers, on voit ça. Des enfants qui ont créé des parcours sur le trottoir. Alors, tu sais, quelle belle activité. Il peut y avoir un parcours mathématique où tu trouves la réponse à une question puis tu passes au carré avec la réponse. J'ai vu des math walks où des profs ont écrit des petites questions intéressantes, des questions ouvertes sur les mathématiques. Quand tu te promènes avec ta famille, ben, on parle de la question. Des affiches qui disent « ça va bien aller ». OK, ben ça prend, ça demande pas beaucoup de pensée critique. Mais écrire j'ai vu sur Twitter ce matin, écrire des lettres aux gens âgés, aux personnes âgées, dans des foyers. Des lettres à la main, mises dans la poste pour dire « je pense à vous ».
Alors, je pense maintenant, là, c'est le moment ou jamais pour le faire parce qu'ils sont super isolés en ce moment.
Oui, oui, et ça va leur apporter du bonheur. Comme juste le fait que quelqu'un y pense puis qu'un enfant leur raconte qu'est-ce que lui fait à la maison en ce moment, ça va être apprécié. Puis il y a tout un apprentissage dans la rédaction d'une lettre.
Oui. C'est drôle parce que en parlant des parcours que tu avais mentionnés, il y avait une de mes amies qui a mis une photo d'une marraine qu'elle a dessinée, puis elle s'est rendue compte que c'était vraiment croche, que c'était pas faisable. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est non seulement un apprentissage pour l'élève, mais c'est aussi un apprentissage pour les adultes aussi.
Absolument, oui. En parlant des affaires qu'on peut faire dans le voisinage, quel genre d'activité quotidienne est-ce qu'on pourrait proposer aux élèves qui demanderaient un apprentissage? Des affaires qu'on fait à tous les jours de toute façon à la maison ou des affaires qu'on fait au printemps à la maison?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un excellent bronzage parce que j'ai passé tout mon samedi comme on dit chez nous, charrier des barouettes de terre parce qu'on a mis en terre nos poussailles. On a commencé notre jardin. Alors, c'est super excitant. Bon, en tout cas, moi, je suis très excitée.
Et je me rappelle, puis j'en ai parlé à l'époque souvent, et souvent, j'avais des petites larmes aux yeux parce que quand je parle de mes enfants, c'est mon MO. Mais une des premières choses que Nigel avait faites de façon autonome, c'était de garder son argent qu'il avait reçu à Noël, de s'acheter des lumières ultraviolettes pour le sous-sol et de planter des graines et de préparer son potager. Puis il avait construit des plates-bandes élevées avec mon père. Il avait calculé combien de graines est-ce qu'il fallait qu'il achète. Il avait calculé combien de graines est-ce qu'il faut que je plante si je veux finir par avoir, parce que toutes les trois graines, on va en enlever deux une fois que ça commence à pousser. Il a commencé à suivre des gens sur YouTube, puis a écrire des lettres à ces gens-là pour leur demander des avis. C'était des mathématiques, c'était de la littératie, c'était des finances parce que il avait même créé un plan pour vendre des citrouilles à l'époque. Alors, il y avait plein d'apprentissages intégrés dans tout ça. Mais Vicky, qui habite dans un condo au centre-ville de New York ou quelque chose, je ne sais pas, à Toronto, dans la grande ville, elle, je ne pense pas qu'elle plante d'énormes jardins. Ben, est-ce qu'il y a des affaires que vous faites chez vous?
Alors, moi, je retourne toujours à ma source, c'est la cuisine. Juste de faire la cuisine. Est-ce qu'on mange à chaque jour? Oui, on mange à chaque jour. Tu sais, là, on voit présentement tout le monde qui est sur Instagram qui dit « Regarde, moi, j'ai fait ce pain-là. » Ben, faites la pâtisserie, faire quelque chose. Comme, puis ça, ces tâches-là, on le faisait déjà quand on était en salle de classe. On demandait aux élèves de retourner à la maison puis de faire des de faire la cuisine, de faire des recettes avec leurs parents. Alors, si vous pouvez tout le transférer dans ce contexte-là, les parents vont être contents parce qu'ils ont eu de l'aide. Les enfants vont apprendre les règles de sécurité dans la cuisine, comment utiliser un certain outil. C'est pas juste des mesures. On dit tout le temps, oh, la cuisine, ça va travailler les mesures. Ça travaille bien plus que ça. Il faut qu'on regarde le temps. Il faut qu'on regarde la température. Il faut qu'on regarde la sécurité des aliments. Tout.
Ouais. Il faut être résilient quand ça ne marche pas.
Oui. Et c'est donc pourquoi que j'ai jamais eu des photos de pain parce que je ne fais pas ça.
Et on avait parlé de ça en parlant de résilience qui pourrait être reliée aux HHT, puis sens de l'initiative, autonomie, etc. Alors, en ce moment, en Ontario, on n'évalue pas les HHT, les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail, parce que c'est super difficile de les observer à distance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les développer.
Absolument.
Et si on veut faire ça, il faut qu'on en parle aussi aux élèves. Alors, c'est pas juste de, tu sais, que ça arrive de façon naturelle, mais aussi qu'on parle de, surtout lorsqu'on est à la maison, puis on est peut-être tanné d'être à la maison, il faut qu'on soit persévérant.
Puis, tu sais quoi? Il faut qu'on ait une pensée aussi, parce que là, tout ce qu'on a proposé, c'est absolument magnifique, mais souvent, tout dépendant de l'âge de l'élève, il y a maman et papa qui est derrière. Il faut garder en tête que c'est pas tous les élèves qui ont maman et papa derrière en ce moment. Ils sont là, mais peut-être que maman est en train de travailler. Il y a toute une réalité derrière qu'on connaît pas. Alors, c'est pas parce qu'on propose des apprentissages à la maison qui sont absolument fantastiques que ce sont tous les élèves qui vont les vivre dû à la réalité ou les circonstances qui se passent.
Puis, il faut se rappeler aussi que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose en ce moment est plus ou moins facultatif. Mm-hmm. Tu sais, il faut savoir que c'est pas tous les élèves qui sont capables de le faire, qui ont l'appui, mais c'est le cas pour tout le monde. Même si on pense que ça va super bien, je sais que j'ai entendu de la part des enseignants, il y a des parents qui me disent juste cette semaine, mon fils ne peut pas, ne va pas faire telle chose. Et on ne pose pas de questions. On
dit juste,
c'est correct. Alors, continuez avec ça la semaine prochaine ou quand vous allez être capable.
Absolument. Oui. Alors, faut pas penser que tout ce qui est fait à la maison, on peut l'évaluer. Justement, dans ces contextes-là.
Ouais.
Exactement. Puis, c'est pas nécessaire. Comme en salle de classe, c'est pas tout ce qu'on propose aux élèves que le but, c'est de l'évaluer. Oui, on est toujours en train de circuler, de faire des observations, mais parfois, l'idée, c'est la consolidation, c'est l'apprentissage, c'est pas l'évaluation. Alors, pendant les centres d'apprentissage, pendant les cercles de lecture, les enfants vont être en train de faire des affaires qu'on peut pas tout observer en même temps. Alors, c'est comme l'idée de l'arbre dans la forêt. Si un arbre tombe dans la forêt et personne ne l'entend, est-ce que ça fait du bruit? Bien, si un enfant apprend quelque chose et je ne le vois pas, l'apprentissage a quand même de la valeur.
Absolument.
Mais sur ce, il faut quand même qu'on évalue certaines choses. Alors, on avait parlé avant de commencer à enregistrer de façon, puis il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, ça commence par F. ça permet aux élèves de partager des petites vidéos.
Non,
plus que 4 lettres, Mylène.
Flipgrid!
C'est ça! Alors, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines parce que c'est génial pour les preuves d'apprentissage, c'est génial pour auto-évaluation, évaluation par les pairs, juste pensée critique, puis communication entre les élèves.
Et aussi avoir la voix de l'élève, d'entendre chaque élève de manière individuelle pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Alors, pour la minorité qui ne connaît pas encore Flipgrid, Vicky, est-ce que tu pourrais juste résumer rapidement qu'est-ce que ça nous permet de faire?
Un coup de cœur, c'est vraiment, ça nous permet de créer une classe et des tâches qu'on assigne à ce groupe-là. Évidemment, il va y avoir des descriptions que tu peux mettre, les critères, les instructions, puis on peut même s'enregistrer pour dire « Allô les élèves, voici une tâche que je vous propose » ou quoi que ce soit. Puis comment est-ce que les élèves déposent leurs tâches? C'est en se filmant. Alors, toutes les réponses qui sont données sont par le biais de vidéos et c'est génial parce que il n'y a pas personne qui aimerait pas se voir plus souvent en vidéo. Je sais pas là, mais je pense qu'en général c'est ça. Puis d'ailleurs, je dis tout le temps que on ne me voit pas assez sur l'internet. Alors voilà.
OK, Vicky, mais moi, je viens de me couper le toupette moi-même devant le miroir. Alors, en ce moment, j'aimerais me voir un petit peu moins. Mais d'habitude, oui, je suis d'accord avec toi. Si jamais il y a un élève qui est anxieux, qui n'aime pas se faire voir, qui n'aime pas se faire filmer, il peut juste se filmer en mettant son pouce sur la caméra.
Il y a des options dans la plateforme. L'enfant peut être complètement pixelété pour pas qu'on voit son visage.
Voilà.
Et il peut même mettre un emoji par-dessus sa tête.
C'est vrai. Alors on n'a pas besoin de le voir. Puis, il peut se supprimer par après aussi. S'il n'aime pas ce qu'il a filmé, il le refait. Alors, ça permet aux élèves de se pratiquer aussi avant de se faire filmer puis de ne pas se faire voir s'il n'aime pas ça.
Oui, un vrai coup de cœur, que ce soit l'utilisation en salle de classe et surtout maintenant qu'on n'est pas souvent avec nos élèves, c'est vraiment une autre tâche intéressante et ludique et authentique qu'on peut leur proposer. Et, qu'est-ce que j'entends?
Ça sent toute la classe recommande!
Alors, cette semaine, on vous offrira un petit tutoriel sur les possibilités avec Flipgrid sur toute la classe recommande.
Et ça, joint avec les tâches et l'apprentissage à la maison, ça permet d'avoir quelques feedbacks de qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas fait à la maison, mais surtout d'entendre cette si jolie voix de nos élèves et de pouvoir avoir des conversations individuelles avec eux.
Et il faut qu'on se rappelle, comme Vicky avait dit, il y a de la place sur la plateforme de décrire exactement ce qu'on veut de l'élève. Alors, si les élèves ont préparé le souper avec un parent ou eux-mêmes, dépendant de l'âge, on peut leur demander spécifiquement ce qu'on veut dans le film. Parce que c'est pas nécessairement est-ce que le gâteau était bon ou mauvais. On veut savoir qu'est-ce que vous avez appris ou quel défi est-ce que vous avez rencontré et surmonté ou quel défi mathématique, quel défi...
Pour les plus jeunes, quel était ton rôle? Quelles étaient tes responsabilités? Est-ce que... Bon, il y a plein de choses en lien avec les apprentissages essentiels qui peuvent être déposées dans les critères pour que l'enfant réponde.
Puis, il y a beaucoup de littératie dans la cuisine aussi. Comme Vicky avait dit, on parle souvent de mathématiques. Moi, quand mes élèves étaient petits, je les amenais au resto comme sortie pour voir jusqu'à quel point il faut écrire et lire pour travailler dans un restaurant.
J'aurais aimé ça être dans ta classe.
Ah oui, on a mangé des frites.
Alors là, ça rentre dans le curriculum de santé pour voir combien de calories on a consommé et est-ce qu'on a consommé tous les groupes et tout ça.
Ben, j'avais un pauvre élève qui n'avait pas le droit de manger les frites parce que c'était cuit. Elles étaient cuites dans la même huile qu'on utilisait pour le poulet. Alors, lui, pour des raisons religieuses, il n'avait pas le droit d'en manger. Alors, il a mangé des carottes. Tout le monde avait comme un beau plat de frites avec ketchup, sel, vinaigre. Ça sentait les frites. Puis, pauvre lui, il y avait son petit assiette de vinaigrette pour tremper.
T'as pas mis de ketchup sur ses carottes?
Mais ouais.
On aurait dû les faire frire, les carottes.
Oui. Mais non, c'est l'huile le problème.
Ah oui, c'était l'huile le problème. Alors, mesdames, on a parlé de motivation, d'engagement, d'apprentissage, des critères.
De la pensée critique, de TC2,
des... De consolidation, d'apprentissage ouais. à la maison. Écoute, on en dit des affaires, ça n'a pas de sens.
Alors, on a quelques documents que je vais partager sur nos réseaux sociaux aussi, suite à la publication de cet épisode, surtout le document de pensée critique de Garfield Ginny Newman, qui est super intéressant. Et on se revoit la semaine prochaine.
Bye!
Bye! Bye.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Vansal-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Toutes pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.